donc Apocalypse 1. Je ne sais pas si le nom de Polycarpe veut dire quelque chose pour vous. Polycarpe. On est autour des années 156, d'accord? En fait, je crois qu'on est le 22 février 156. Polycarpe, c'est un vieillard, il a 86 ans. Il est en train de passer un moment avec des amis dans une ferme près de Rome. Mais c'était auparavant, c'était un responsable de l'église à Smyrne, dans la région à laquelle l'Apocalypse est des destinataires de l'Apocalypse. Alors, Polycarpe, il est arrêté par la police secrète romaine, qui ont le nom les gardiens de la paix, parce qu'il refuse de fléchir le genou devant César. Il est emmené à Smyrne et il est mis devant le public à l'arène de Smyrne. Il vient d'avoir le passage des gladiateurs qui se sont battus, des lions, etc. Et la foule veut voir du sang. Alors, le proconsul Quadratus essaie de le convaincre à renoncer à sa foi. Et donc, il lui dit, et peut-être les gens écoutent tant bien que mal, « C'est facile, tout ce que vous avez à faire est de dire que César est Seigneur et d'offrir un sacrifice devant son image et vous aurez la vie sauve. Maudissez Jésus et nous vous relâcherons. » Que va faire Polycarpe? Alors, il prend la parole à son tour. 86 ans, j'ai servi Jésus et il ne m'a fait aucun mal. Comment puis-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Entendez, je suis chrétien. Si vous voudriez savoir plus sur la doctrine chrétienne, prenons rendez-vous, peut-être il n'a pas dit exactement comme ça, et je vous en parlerai. Quelle audace, hein? Il sait qu'il va mourir. Mais il demande si le proconsul voudrait savoir plus sur la doctrine chrétienne. Alors la foule est en rage et demande sa mort. Et donc on le lit, on le met sur du bois et on allume le bois. Et c'est comme ça que Polycarpe est mort. Alors, cette histoire s'est passée une cinquantaine d'années après la rédaction de l'Apocalypse, selon ce que Jacques Bouchaud a dit la semaine dernière. Mais cette situation se préparait déjà dans l'Empire. Il y avait ce culte à l'empereur et les chrétiens commençaient à être vraiment ciblés pour être persécutés. Alors, la persécution des chrétiens existe toujours, depuis et toujours. Partout dans le monde. En Chine, actuellement, j'ai pu comprendre que avec l'approche des JO, les autorités sont de plus en plus dures avec l'église souterraine, mais de moins en moins dures avec l'église officielle. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques, notre ami Jacques, mais il pourrait nous raconter des choses sur la situation des chrétiens dans son pays, en Asie centrale. C'est pas facile d'être chrétien là-bas. Et même en France, sur les campus, ces dernières 12 mois à peu près, il y a deux GBU qui ont été victimes en quelque sorte de la persécution. Pas de ce niveau-là de Polycarpe, mais un GBU où l'élu de la promotion a dénoncé le GBU et la pratique de mettre des affiches devant l'administration qui a dit que le groupe n'avait plus le droit de le faire. Ça veut dire que la possibilité de se faire connaître pour ce groupe-là, coupée. Et c'était pas venu de l'administration, c'est venu d'une étudiante de la promo du GBUCN. C'est pareil sur un autre campus. C'était cette fois-ci une élue au conseil d'administration qui a dénoncé le GBU, qui avait pourtant une salle, comme étant une secte. Et ce n'est pas venu de l'administration. L'administration n'avait aucun problème avec le GBU. Et pourtant, depuis un an maintenant, ce GBU n'a pas de salle pour se réunir. Mais c'était parce qu'une étudiante s'est opposée au GBU. Donc, je pense qu'il y a d'autres types de situations où personnellement, peut-être, on peut être le sujet de moquerie des fois des amis. Mais tu crois ça? On est au 21e siècle. Alors, quel est donc le secret pour persévérer? Pourquoi Polycarpe? Il est allé à la mort comme ça. Quel était son secret? Quel est le secret des chrétiens en Chine qui persévèrent dans des situations difficiles? Qu'est-ce qui va nous mener à persévérer, nous, en tant que chrétiens? Et je pense qu'en Occident, les choses ne sont pas trop difficiles. Mais je pense que les choses vont durcir dans les décennies à venir. Pourquoi est-ce que nous garderons notre mission? Alors, à mon avis, l'Apocalypse nous donne des réponses. Et même le chapitre que nous venons de lire, Apocalypse 1, nous donne des réponses. Et au verset 1 à 3, nous avons une première réponse. Oups. Parce que au verset 1 à 3, nous avons le contenu du livre. Dieu révèle ce qui doit arriver sans délai. Et verset 1 à 3. Dieu révèle ce qui doit arriver sans délai. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc il reçoit des visions, ça vient de Dieu et lui à son tour, il raconte tout ce qu'il a vu. La source, c'est Dieu, c'est pas Jésus, et c'est Jean qui est le moyen de cette communication. Mais quelle est la valeur de cette révélation pour les chrétiens? On a cela au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Alors, c'est un grand encouragement à lire. Je pense à l'époque... c'est pas tout le monde qui avait une Bible. Il y avait un manuscrit qui circulait, et donc il y avait une personne qui lisait, et tous les autres qui écoutaient. C'est un peu cette situation, mais il dit « heureux celui qui écrit, et heureux celui qui écoute ». Ça vaut la peine. Et en fait, c'est expressément pour cette raison-là qu'on a démarré ce soir, on fait une expérience, mais on a démarré avec des groupes pas trop dirigés. On pense, si on est encouragé à lire, ça veut dire que nous pouvons lire l'Apocalypse et faire des progrès dans la compréhension. C'est pas censé être un livre fermé. D'accord? Donc j'aimerais bien savoir quelle était l'expérience de ce soir. On va le répéter à l'avenir. Mais j'espère qu'au fil des semaines, que vous allez faire l'expérience de mieux en mieux comprendre chaque fois comment lire l'Apocalypse, comment le déchiffrer, comment le comprendre. Alors, comment seront-ils, ou pourquoi seront-ils heureux? Et il répond un peu à cette question. Heureux, car le temps est proche. Il y a quelque chose à faire avec le temps dans ce livre, dans cette révélation. Le temps joue un rôle très important. Et notamment, le temps est proche. Et pour un peu mieux comprendre cet aspect du temps, je voudrais fouiller un peu sur une expression. C'est cette expression, ce qui doit arriver bientôt, ou bien, je pense que c'est même mieux dit, sans délai. En fait, c'est une expression qui est déjà évoquée dans le livre de Daniel. Et nous allons faire un peu de comparaison avec Daniel et l'Apocalypse pour un instant, que, ce qui, j'espère, va nous aider à mieux comprendre l'Apocalypse. Donc, tout d'abord, la vision de Daniel, à la fin de Daniel, il y a un ange qui dit à Daniel, « Va, Daniel, car ses paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Daniel, il avait reçu aussi des visions qui sont, à bien des égards, très très semblables aux visions dans l'Apocalypse. Mais c'est intéressant, à la fin du livre de l'Apocalypse, un ange dit presque le contraire à Jean. Il dit le contraire. « Ne ferme pas d'un seau. » Daniel, sa vision sera scellée, mais « Ne ferme pas d'un seau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Et donc voilà, avant, les temps de la fin étaient lointains. Mais maintenant, quelque chose est arrivé, le temps est proche. Alors, pour nous aider aussi, nous avons besoin de nous rappeler cette vision de Daniel 2. Vous vous rappelez de cette vision, Nebuchadnezzar, il a fait un rêve, et dans son rêve, voilà, il a vu une image, et donc la tête, c'était d'or, il y avait une tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre et les hanches de bronze, et puis les cuisses de fer et les pieds, de fer mélangé avec de l'argile. Ça vous rappelle un peu? D'accord? Et puis, il y avait une pierre qui n'était pas faite de main d'homme, qui a descendu la montagne et qui a balancé la statue en beaucoup de morceaux, qui l'a détruit. Alors, si vous vous rappelez, ça correspond à quatre royaumes terrestres, et puis il y a un royaume éternel qui va les remplacer, qui va les anéantir. Ça va? Ça vous rappelle quelque chose? Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est l'introduction à cette rêve et le comparer avec l'Apocalypse. Donc, c'est un peu petit, j'espère que c'est Daniel 2, 28 et 29. Donc, Daniel dit à Nebuchadnezzar, « Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets, et il a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver, voilà, vous voyez, ce qui doit arriver dans les temps à venir. Et puis, il le répète, « Alors, celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. » Et encore, c'est dans les temps à venir, dans Daniel. Alors, dans l'Apocalypse, nous venons de lire au verset 1, mais on a quelque chose de semblable au chapitre 1, verset 19. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite. » C'est vraiment le futur proche est important, c'est ce qui va arriver. C'est très proche à ce qui doit arriver. Et puis, au chapitre 4, verset 1, on est toujours vers le début du livre. « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Ensuite, dans Daniel 2, nous avons le rêve et nous avons l'interprétation. Pareillement, ensuite, dans l'Apocalypse, nous avons le corps de l'Apocalypse, du chapitre 4, verset 2 au chapitre 22, verset 5. Et puis, on arrive à une conclusion. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera, et dans le grec de l'Ancien Testament, c'est ce qui doit arriver dans l'avenir. Et, tout à la fin de l'Apocalypse, on a quelque chose de semblable. Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur qui a inspiré des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et juste, peut-être vous pouvez vous dire, c'est un peu farfelu, Daniel, que l'Apocalypse, le grand plan de l'Apocalypse est s'inspire un peu de Daniel 2. Mais je trouve aussi très intéressant ces précisions-là. Donc, ce qu'annonce le rêve est chose certaine, son interprétation est authentique. En fait, c'est traduit un peu différemment, mais ces mots correspondent. Donc, ces paroles sont certaines et authentiques. Ça va? Donc, il y a quand même des rapports entre les deux. Sinon, quel est le message de Daniel 2? Voilà, à l'époque de ces rois-là, donc les quatre royaumes, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même, le royaume, subsistera éternellement. Eh bien, ça c'est le message de l'Apocalypse. Le message de l'Apocalypse, c'est que le royaume de Dieu est venu. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'Apocalypse, les royaumes des hommes, et notamment dans la figure de Babylone, est anéanti. Et ce qui subsiste à la fin, c'est le royaume de Dieu. On l'a, par exemple, l'Apocalypse 12, verset 10, « J'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne, son royaume. » Donc, je pense qu'il y a un parallèle. Mais il y a quand même une différence. La différence, c'est que pour Daniel, c'était dans les temps à venir. Mais pour l'Apocalypse, c'est ce qui doit arriver sans délai. C'est vraiment dans l'immédiat. Ça arrive, c'est maintenant. Voilà. Voilà la question. Pour Daniel, c'est à l'avenir. Dans l'Apocalypse, ça arrive, ces choses arrivent sans délai. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé pour que ce soit maintenant, sans délai? Vous voyez la question? En tout cas, ça c'est la promesse de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous donne une perspective sur l'histoire. Ce n'est pas ce qui est tout à la fin de l'histoire. C'est un peu ce que Jacques a dit la semaine dernière. C'est maintenant, c'est à partir de ce moment-là que l'Apocalypse décrit l'histoire maintenant. Alors, on peut voir que ça peut être utile pour des gens qui sont persécutés. Et même si notre persécution est vraiment relativisé en comparaison à d'autres chrétiens dans le monde ou dans l'histoire, les gens autour de nous sont quand même dans l'incertitude. Il peut y avoir de l'incertitude vis-à-vis du 11 septembre. Je pense que ça a reculé un peu dans l'esprit global, mais quand même, le monde n'est pas le même monde qu'il y a... bon, peut-être que c'est le même monde, mais il y a de l'incertitude qui est venue par là. Actuellement, on ne parle que du pouvoir d'achat. Les gens sont inquiets. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon argent? J'ai de moins en moins d'argent pour vivre, pour acheter. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais presque chaque jour dans les journaux, pouvoir d'achat. Et puis, en tant qu'étudiant, je pense que ce n'est pas facile dans l'insertion professionnelle et tout cela. Si on met de côté le plan de persécution, de difficultés, de guerre, etc., il y a quand même des difficultés dans la vie en Occident. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, eh bien, l'histoire, mon programme pour l'histoire est en train d'arriver. C'est vraiment là. Et en lisant l'Apocalypse, vous pouvez avoir des certitudes sur l'histoire qui va vous aider à bien vivre, heureux, celui qui lit ce bouquin, parce que vous aurez des repères pour votre vie. Donc, si vous êtes en manque de repères pour votre vie, ben, il faut lire l'Apocalypse. Hein? C'est vrai. L'Apocalypse nous aide, aussi comme Jacques a dit la semaine dernière, à déchiffrer notre monde. L'Apocalypse nous aide à déchiffrer l'histoire. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle on peut faire face aux difficultés, à la persécution, aux incertitudes dans le monde, c'est que Dieu lui-même surplombe l'histoire. Et ça, on le voit au verset 4 à 8. Au verset 4, vous l'avez remarqué, ça prend aussi la forme d'une épître. C'est une épître classique. Jean, c'est un peu comme cher chrétien dans les sept églises, hein, mais dans, à l'époque, on mettait l'auteur en premier, Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Alors, ce qui est frappant, c'est que tout de suite, il leur dit « grâce et paix ». Souvent, dans les introductions, dans les lettres, dans le Nouveau Testament, ce qui est mis dans cette introduction est vraiment pertinent pour les destinataires. Et c'est vraiment le cas ici. Aux chrétiens qui n'expérimentent pas la paix, Jean, il dit « grâce et paix ». Et quelle pourrait être la base de cette paix? Alors, on le voit tout de suite. « Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. » Alors, cette grâce et cette paix vient du Dieu trinitaire. C'est, l'Apocalypse est vraiment très, très trinitaire. C'est Dieu en trois personnes qui est mis en avant, qui agit dans l'histoire. Mais, Jean, il commence avec Dieu le Père, et il termine au verset 8 avec Dieu aussi. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, en quelque sorte, le début de cette intresse et la fin, c'est Dieu le Père qui surplombe l'histoire. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là, ce sous-titre? Parce que il est l'alpha et l'oméga. Il est le début. Il est au début des choses et il est à la fin des choses. Est-ce que les projets de Dieu vont arriver à bon port? Oui. Parce que, aussi, on a la même idée dans cette expression qui se répète deux fois. Celui qui est, qui était, donc passé, et qui viendra. Il surplombe l'histoire. Et dans cette dernière expression, le Tout-Puissant, ça vient d'un mot grec, Pantokrator, le Tout-Puissant, mais en fait, l'empereur était nommé le Pantokrator. Mais là, il dit non, c'est Dieu qui est le Pantokrator, qui est le roi de l'histoire. C'est aussi de la part des sept esprits. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais sept esprits. C'est un peu de l'hérésie, là. Je pensais qu'il y avait seulement un esprit. Alors là, on rentre dans le symbolisme de l'Apocalypse. Sept, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre divin. C'est le chiffre de l'accomplissement. Donc là, on a les sept esprits de Dieu, ça veut dire l'esprit dans sa totalité, dans sa perfection, qui donne grâce et paix aux églises. Et puis, de la part de Jésus-Christ, verset 5, le témoin fidèle, lui, fidèle jusqu'à la mort, hein? Fidèle jusqu'à la mort, donc il ne demande pas aux chrétiens de faire quelque chose que lui n'a pas fait. le premier-né d'entre les morts, ça veut dire le premier-né de la nouvelle création, et le souverain des rois de la terre. Vous avez des problèmes avec des autorités. Eh bien, moi, je suis le souverain de ces autorités-là. Et ceux qui te font n'échappent pas à mon contrôle. Je dis à Dieu, mais Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi on refuse à maintes reprises de nous donner une salle? Tu es le roi de tout. Et il te dit, mais je suis le roi de ces autorités-là. Il ne faut rien sans que je leur permette de le faire. Même si on ne comprend pas, au moins on peut savoir, il est le roi des rois de la terre, Jésus. Et donc, spontanément, il y a la louange qui vient, qui jaillit des saints ou de gens. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Alors, ce qui est très intéressant là, il y a déjà ce que Jésus a accompli par sa mort pour nous. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est notre problème majeur. Mais il y a plus que ça. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les chrétiens, nous avons une mission. Nous avons été sauvés pour une mission. Et donc, je pense que ce passage est vraiment pertinent pour le GBU. Pour tout chrétien, évidemment, mais si vous faites partie du GBU, vous savez que nous avons une mission au GBU. Quelle est notre mission? C'est de faire connaître Jésus au plus grand nombre d'étudiants en France. C'est une mission énorme. C'est une mission impossible. Et pourtant, il est mort pour nous donner cette mission-là. Dans cette période de la fin des temps, le peuple de Dieu a une mission. C'est de représenter Dieu auprès du peuple de la terre, qui pourtant ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais ça, c'est notre mission. Je réfléchissais un peu à ça, à la lumière de Mission Impossible. Alors, Tom Cruise, c'est au moins dans le... Je sais qu'il est très petit, hein. Mais c'est ça. On prend des prises de vue pour mettre en valeur qu'il n'est pas si petit que ça, que c'est vraiment un mec vraiment solide, très doué. En fait, il n'y a rien qui peut... Même si c'est impossible, il peut s'en sortir. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être comme ça? On est des petits. Dieu nous a donné une mission. Une mission impossible. Mais on est des petits. On est des petits, des faibles. Il a donné sa mission aux faibles. Pas au Tom Cruise. Et qu'est-ce qui va permettre à ce qu'on accomplisse notre mission? À ce qu'on, à notre tour, qu'on soit fidèle comme Jésus, il a été fidèle. Eh bien, nous avons un Dieu qui surplombe l'histoire. Il est le début. Il est la fin. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Jésus est le roi des rois. Donc, pourquoi continuer? Vous voyez, il y a des choses très pertinentes pour nous encourager dans notre mission. En fait, j'ai oublié de dire tout à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas ce soir chrétien, peut-être que vous êtes là parce que vous vous intéressez à savoir, mais c'est chrétien. Qu'est-ce que ce livre d'Apocalypse, quel est son intérêt? Alors, justement, qu'est-ce qui est au cœur des chrétiens? Pourquoi les chrétiens sont prêts à se faire massacrer, à se faire persécuter, à être le risé de même de leurs amis proches? C'est parce qu'ils ont été rachetés par Jésus. C'est parce qu'il y a un Dieu qui surplombe l'histoire. C'est parce qu'ils savent quelle est leur place dans l'histoire. Donc, peut-être que vous êtes là avec des questions. Quel est le sens de ma vie? J'aimerais vous encourager aussi, si vous ne croyez pas. Ça vaut la peine, vous pouvez découvrir des choses avec l'Apocalypse. Alors, la troisième partie de ce chapitre donne encore une raison pour persévérer. Parce que il y a le Fils de l'homme divin, j'ai mis céleste, mais je le changerai plutôt en divin. Le Fils de l'homme divin veille sur son Église. Alors, c'est très intéressant, cette troisième partie. Là, on quitte tout ce qui est introductoire et on rentre vraiment dans la révélation. Vous l'avez remarqué, je pense, au verset 9. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean, il décrit sa situation de manière particulière. Il dit que j'étais dans l'île de Patmos, et là, nos traductions ne nous aident pas. Et puis, il dit, le jour du Seigneur, j'étais, on pourrait dire, dans l'esprit. Dans l'île de Patmos, dans l'esprit. Et en fait, nous avons deux perspectives. Quelle est sa situation dans l'île de Patmos? Il le dit, « Moi, Jean, je suis votre frère, qui suit votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Lui, à son tour, il est emprisonné. Il est persécuté. Il dit, comme vous, peut-être vous n'êtes pas en prison comme moi, mais vous avez des difficultés parce que vous êtes chrétien, parce que à cause du témoignage que vous portez au nom de Jésus. Mais il y a une deuxième perspective. Verset 10, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » En fait, il y a une autre manière de voir la réalité. Il y a une autre manière ici-bas, dans toutes les difficultés, tous les problèmes. Mais l'Apocalypse nous donne la perspective de Dieu de voir la réalité. C'est un peu comme une tapisserie. Vous savez, il y a deux côtés à une tapisserie. Il y a le côté qui est tout beau, le devant. Et là, on voit de manière très claire le détail de l'image et tout. C'est vraiment beau. Mais si on va de l'autre côté de la tapisserie, là où on a travaillé avec du fil, avec des aiguilles, etc., là où on a brodé, on voit que c'est difficile à voir la trace de l'image. Il y a beaucoup de pagailles, il y a beaucoup de fils, il y a des nœuds, il y a beaucoup de couleurs et des fils coupés. C'est pas facile à vraiment voir le sens de l'image qui est pourtant si clair de l'autre côté. Alors, cette pagaille-là, c'est notre vie ici-bas. C'est la vie difficile. C'est l'apôtre Jean qui est dans l'île de Patmos, emprisonné. Ce sont les chrétiens. On va lire de ces chrétiens, de leurs difficultés la semaine prochaine, les chapitres 2 et 3. Mais l'Apocalypse nous donne la perspective de Dieu. On passe de l'autre côté de la tapisserie pour voir des choses du point de vue de Dieu. Et ça nous aide à persévérer. Alors, qu'est-ce qu'il voit? En fait, tout d'abord, il ne voit rien. Il entend. Et donc, on lit au verset 11. Voilà, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Alors, autre bizarrerie, vous savez, il y avait 10 églises en Asie mineure. C'est en Turquie moderne. J'ai oublié de mettre une carte, mais il y avait 10 églises. Qu'est-ce que Jésus y fait? Il envoie une lettre à que 7 de ces 10 églises. Est-ce qu'il néglige les 3 autres? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de cela? Eh bien, je pense qu'on devrait comprendre le symbolique du chiffre 7. Jésus ne s'adresse pas uniquement aux 7 églises en Asie mineure. En fait, il s'intéresse à toutes les églises en Asie mineure. 7, c'est le chiffre parfait de totalité. En fait, il s'intéresse à l'Église universelle, à toutes les églises de tout temps. Donc, lorsqu'on lit la lettre de Jésus, les lettres de Jésus dans la suite, lorsqu'on lit, voilà, en fait, ça s'adresse à nous. Ce n'est pas uniquement pour le premier siècle. Ça va? Donc, il faut travailler le sens des chiffres dans l'Apocalypse. Et vous avez lu la description de ce qui va ensuite, un comme un fils d'homme, qui est spectaculaire. Je ne vais pas en répéter la description parce que vous l'avez lu, mais je ne sais pas quelle est votre marque de lunettes de soleil préférée, vraiment performante. Qui a fait déjà du ski cette année? En fait, est-ce que les lunettes pour le ski, c'est... moins fort que les lunettes en été. C'est peut-être en été qu'on a des lunettes de soleil plus performantes. Au ski, d'accord. Ok, ben, on a les meilleures lunettes de soleil de ski, et on voit cette image de Jésus. On va quand même tomber plat, comme l'apôtre Jean. Je veux dire, même avec des lunettes de soleil, lorsqu'on regarde le soleil, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Lorsqu'on voit le soleil nu, et il est ébloui par cette révélation, cette vision qu'il a de Jésus, au point où il tombe comme mort. Mais la question, c'est quelle est la signification de cette vision? Il y a beaucoup d'arrière-plan dans l'Ancien Testament. Presque chaque mot, chaque description évoque un texte de l'Ancien Testament. Mais j'aimerais bien suggérer que encore Daniel est clé, et notamment Daniel chapitre 7. Et là encore, juste pour nous aider, j'aimerais juste faire un peu de... nous mettre dans le bain sur Daniel. Daniel est comme un sandwich. Il y a un sandwich partout dans la Bible, franchement. Mais Daniel 2 correspond à Daniel 7, d'accord? Daniel 3, les trois dans la fournaise, correspond à Daniel 6, Daniel dans la fosse aux lions. Daniel 4 et Daniel 5 sont ensemble, d'accord? Mais Daniel 2 et Daniel 7 correspondent l'un à l'autre. On a quatre royaumes terrestres, avec quatre métaux différents. Daniel 7, on a quatre royaumes terrestres, mais cette fois-ci, ce sont quatre bêtes différentes. Daniel 2, un royaume éternel arrive. Alors, nous lisons dans Daniel 2, 24, on l'a déjà lu, à l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, etc. Daniel 7, il faut que vous lisiez Daniel 7. Un des textes les plus importants dans l'Ancien Testament, pour comprendre Jésus. Il faut l'étudier. Mais, Daniel 7, ça parle d'un royaume éternel. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Alors, on a déjà vu cela au verset 7. Je ne suis pas arrêté dessus. Un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, âgé de nombreux jours. On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. D'accord? Donc, royaume éternel. Royaume éternel, mais on découvre quelque chose de plus. Il y a un fils de l'homme qui reçoit ce royauté. Et Jean, il dit, c'est celui-là que j'ai vu. Dans la vision de Daniel, c'était à l'avenir. Mais Jean, et il se met en position de témoin. Hein? Il dit, je témoigne, j'ai vu le fils de l'homme dans toute sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume est déjà venu. Ça veut dire que les projets de Dieu pour la fin de l'histoire sont déjà mis en route. Ça va? Donc, en fait, cette vision nous aide à comprendre le verset 1. Ce qui doit arriver qu'est-ce que j'avais dit, pas bientôt, mais sans délai. Parce que c'est déjà en route. Sans délai, parce que c'est déjà en route. Alors, j'aimerais bien m'arrêter plus sur ça, mais on va aller vers la fin. Posons la question, qui est-ce? Qui est-ce? Je pense que vous avez vu versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier. À ce moment-là, ça pourrait être Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu il a dit? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. Dieu est le vivant. C'est Dieu le vivant. Et puis il rajoute, et me voici, j'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui est-ce? C'est Jésus. C'est Jésus, mais ressuscité. Il était mort, mais il n'est plus mort. Il vit au siècle des siècles. Vous voyez, Daniel 7 s'est accompli dans la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a revêtu la gloire qu'on voit là au chapitre 1. Cette vision étonnante de l'Apocalypse chapitre 1. L'histoire est gouvernée par Jésus. L'histoire est gouvernée par ces événements de la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, Jésus, il dit à Daniel, à Jean, écris donc ce que tu as vu, verset 19, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Parfois, des commentateurs pensent que ça c'est une manière de diviser l'Apocalypse, mais je me demande si c'est juste une manière de dire, écris tout ce que tu vois, ce qui est, c'est-à-dire que le royaume a déjà démarré, et ce qui va se produire ensuite, ça veut dire cet enchaînement dans lequel nous sommes déjà, de la fin des temps, de la fin de l'histoire. Alors, on va découvrir le caractère de cette fin d'histoire, de l'histoire. C'est pas tout plat, c'est très mouvementé, et pourtant Jésus en est roi. Et l'histoire va arriver jusqu'au bon port. On est déjà, la fin de l'histoire est déjà entamée. Et dans cette difficulté de la fin de l'histoire, Jésus tient les clés de la mort. La mort ne peut pas toucher les chrétiens. Polycarpe, il est allé à la mort, mais il savait qu'il y a la résurrection grâce à Jésus. Et ces étoiles et ces chandeliers d'or, c'était facile à déchiffrer parce que Jésus lui-même, il donne l'explication. Au moins, c'est facile pour les églises. Les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Jésus, il est au milieu de ces églises. Oui, ils sont au milieu de la tribulation, mais Jésus, le roi de l'histoire, est au milieu d'eux. Ces petites églises. Alors, on a le sentiment d'être tout petit parfois. On a un GBU de deux personnes, une personne même. C'est possible. Même de 10 personnes sur 40 000 personnes, c'est pas beaucoup. On est petit. Mais Jésus dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. C'est ça le message. Il est là avec nous. On peut persévérer, on peut continuer, parce que Jésus, il est au milieu de nous. Il veille sur nous. Lorsque j'étais ado, j'étais pas super avec l'athlétisme, mais j'aimais plutôt les courses de longue distance que les courses des sprints. C'est pas pour vous. Mais, vous savez, début d'une course à longue distance, 10 km par exemple, il y a les idiots qui courent, qui sprintent, et pour 100 mètres, ils sont les premiers. Et puis, il y a les gens qui, voilà, qui prennent leur temps, ils savent qu'ils doivent se mesurer pour faire la distance. Mais c'est là au milieu quelque part, ça devient vraiment difficile. Il faut persévérer. Mais là, l'expérience que j'avais, je gardais toujours un peu de réserve. Et lorsque j'arrivais à 1 kilomètre de la fin, 500 mètres de la fin, je commençais à mettre de la vitesse. Hein. Je commençais à mettre de la vitesse parce que je savais que le temps était court. Et plus que j'étais proche de la fin, plus je mettais de la vitesse. C'est un peu ça dans l'Apocalypse. On est dans la fin des temps, mais c'est plus très très lointain. On est dedans. Les projets de Dieu pour l'histoire s'achèvent maintenant. La fin est proche. On peut prendre de la vitesse. On peut continuer. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, il va amener ses projets à bon port. On peut compter sur lui. Merci.